Newsletter numéro 129 du 7 mai 2014. Bonjour. Cette newsletter numéro 129 du 7 mai 2014, pour revenir sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines, marquées par une intense activité professionnelle, mais aussi par des disparitions aussi douloureuses que prématurées, qui ont touché le cercle de mes amis et de ma famille. De plus, dans ma dernière newsletter du 14 avril, je vous indiquais que nous étions dans l'attente de la réunion du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argent, pour enfin savoir si la trahison de M. Lio, mise au grand jour entre les deux tours, m'était certainement fomentée de longue date, allait être récompensée par celui qu'il s'était pourtant engagé urbi et orbi depuis de longs mois. À bout et hors de la mairie. Vous retrouverez dans le flash info joint en annexe, l'article de Var Matin au titre aussi surréaliste que sidérant, sur la réunion du 18 avril au cours de laquelle, les adjoints ont été désignés. En effet, pour ce journaliste bien inspiré, la nomination de M. Lio, opposant farouche du maire sortant durant la campagne, aussi critique envers lui et son bilan, qu'envers bon nombre de ses adjoints, est visiblement un non-événement. Curieux, non? Vous pouvez aussi le compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal de Roquebrune du 18 avril, où les délégations des adjoints ont été attribuées. Je vous invite donc à suivre sur ma page Facebook, les messages que je vais poster dans les jours à venir, pour mettre en évidence l'énormité de cette traîtrise aussi inacceptable que condamnable, et qui a surtout permis de sauver le maire sortant de cette défaite qui lui était promise. Je vous promets quelques morceaux choisis de ce feuilleton aussi déplorable que peu honorable pour celui qui en est le principal acteur. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr les consulter aussi sur mon site www.jpcera.fr en page d'accueil. Espérons à présent que les recours déposés par deux listes soient non seulement recevables, mais qu'ils permettent au juge d'annuler cette élection face aux nombreuses infractions à la réglementation qui semblent avoir été relevées. Un troisième tour permettrait certainement aux électeurs d'exprimer leur rejet de ces tripatouillages qui n'honorent pas leurs auteurs, et qui corrigerait le résultat dans le sens attendu par près de 60% de ceux qui se sont exprimés. De plus, n'oublions pas que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, va aussi devoir valider les comptes des candidats, et il y a fort à parier que les comptes de certains vont être examinés avec attention par les contrôleurs de cette commission nationale. Je n'oublie pas que lors des élections cantonales de 2011, des personnes bien intentionnées avaient transmis à la commission des éléments pour essayer de faire rejeter mon compte de campagne. Fort heureusement, leur manœuvre a échoué, car depuis toujours, je veille à respecter scrupuleusement les textes et la réglementation pour chacune de mes campagnes, que j'ai toujours principalement financées avec mes apports personnels. Après un troisième tour électoral, certains devraient redouter un quatrième tour, mais judiciaire cette fois, avec des impacts sur leur inéligibilité qui ne seront pas sans conséquences pour leur avenir. À méditer. La suite à prochain numéro. Concernant mes activités depuis le 14 avril, elles ont été plutôt variées tant au niveau local que départemental ou national. Le 16, j'ai présidé le conseil d'administration du réseau national des destinations départementales, au cours duquel nous avons abordé notamment les conséquences du remaniement ministériel sur le tourisme, qui se trouve désormais sous la responsabilité de quatre ministres et ou secrétaires d'État. Une bien mauvaise nouvelle pour tous ceux qui, comme moi, avait salué l'annonce du président de la République de faire du tourisme une cause nationale et le lancement des assises. Le plus triste dans cette affaire, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, un gouvernement semblait prendre en compte la dimension transversale du tourisme et son poids dans le PIB de notre pays. Ces assises avaient permis à tous les acteurs de ce secteur essentiel pour le développement de notre pays, professionnels comme institutionnels, de faire des propositions concrètes, validé d'ailleurs au cours des trois réunions du comité de pilotage, auxquelles je participais présidé par Sylvia Pinel, devenue depuis ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Nous la regretterons, car son action au service du tourisme et son écoute ont été saluées par tous. Aujourd'hui, outre le ministre des Affaires étrangères et du Développement international et le ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique, nous aurons aussi comme interlocuteur la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, rattachée au ministre des Affaires étrangères, et enfin la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, rattachée au ministre de l'économie. Oups! Nous qui rêvions d'un ministre de plein exercice pour le tourisme, c'est gagné. Ceci posé, je vais donc rencontrer ces personnalités, afin de leur faire partager notre vision du tourisme institutionnel, notamment dans la perspective des bouleversements annoncés par le Premier ministre sur l'organisation territoriale, fusion des régions, disparition à terme des conseils généraux, compétences partagées ou non. Le lendemain, à l'issue du conseil d'administration d'Atout France, j'ai tenu à faire une déclaration pour regretter ces choix, et déplorer qu'une fois de plus, on n'ait pas pris la mesure du poids de cette activité, de sa transversalité, de sa capacité à créer de la valeur et des emplois, mais aussi porteuse de liens sociaux et essentiels pour un développement équilibré, durable et harmonieux de nos territoires. J'ai bien évidemment confirmé ces positions au cours des interviews que j'ai données sur France Inter, RTL, mais aussi à Tourmas. Le 23 avril, j'avais tenu à répondre à l'invitation de mon ami Georges Colson, président sortant du Syndicat National des Agents de Voyage, SNAV, qui après avoir transmis le témoin à Jean-Pierre MLS, s'est vu remettre l'insigne d'officier de la Légion d'honneur, par Sylvia Pinel, redevenue pour quelques minutes, notre ministre du Tourisme. Une très émouvante manifestation avec un très bel hommage rendu à Georges, l'un des grands messieurs du tourisme français, qui a modelé le groupe Fram pour en faire un opérateur touristique majeur. À voir dans le Flash Info en annexe. Le dimanche, comme chaque année, j'ai bien évidemment tenu à déposer une gerbe lors de la cérémonie organisée pour la Journée nationale du souvenir, commémorant la libération des camps de la mort. C'était ma première manifestation en présence des nouveaux élus de l'opposition municipale, même si la presse ne s'en est pas fait l'écho, et si nous n'apparaissons pas sur la photo. Ces derniers jours ont aussi marqué par des disparitions bien trop prématurées. Celle de Monique de Neuville-Dagny à 64 ans, issue d'une vieille famille sambracitaine. Celle de Roselyne Chauvier à 63 ans, qui s'en est allée rejoindre son mari Pierre, disparu il y a 2 ans et 2 mois. Le domaine de marchandises à nouveau endeuillé. La vie doit cependant continuer, et après avoir présidé la commission tourisme, assisté à la commission des finances, et à la commission permanente, j'ai présidé une réunion du conseil d'administration de Var Tourisme. J'ai ensuite rejoint ma permanence de Puget pour une série de rendez-vous. Samedi 3 mai au matin, j'étais à Puget-sur-Argent pour représenter le président du conseil général à l'Assemblée générale des comités communaux des feux de forêt, CCFF, et des réserves communales de sécurité civile, RCSC, du Var, en présence de monsieur le préfet du Var. L'occasion pour moi, dans mon allocution, de saluer le dévouement de ces bénévoles qui servent et donnent de leur temps pour aider et sauver les autres face aux feux de forêt certes, mais aussi face aux inondations de plus en plus dévastatrices. C'était leur 25e anniversaire, ce qui m'a permis de rappeler ce que nous avons vécu en juillet et septembre 1990, lors des incendies qui ont ravagé plus de 5000 hectares de vide-banc à la mer. Demain, je serai au Muy pour la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945. Dans le week-end, j'assisterai à diverses manifestations sur mon canton. J'ai aussi tenu à doter comme chaque année, les remises de prix des tournois du tennis club pugétois, et du tennis club muyois. Je vous invite à prendre connaissance du Flash Info joint en annexe, dans lequel vous retrouverez outre des articles de presse, des photos des différentes manifestations auxquelles j'ai assisté, mais aussi des photos de ce qu'est devenue la cave coopérative, détruite pour ses 100 ans et transformée en cage à lapins. Une injure faite à la chapelle Saint-Pierre, et à son jardin d'olivier. Une honte architecturale défigurant à jamais l'entrée est de notre village millénaire. Mais comment a-t-on pu réaliser une telle horreur, et comment a-t-elle pu être autorisée? Impensable, et innommable. Dernier point et non des moindres, un retour sur le vote du budget 2014 du Conseil Général du Var, dans un contexte plus que contraint, et qui ne va pas s'améliorer en 2015 année de tous les dangers. Je vous invite à consulter la présentation du débat d'orientation budgétaire, DOB, voir le lien sur mon site, et celle du budget voté le 8 avril par l'Assemblée plénière. Je reviendrai dans une prochaine newsletter sur les annonces du Premier ministre, et celle du Président de la République, et leurs conséquences sur la réforme territoriale, et sur les prochaines élections cantonales et régionales. Bonne lecture et à bientôt sur notre site. Jean-Pierre Serra.